trois minutes de silence et de recueillement au Sri Lanka. Le pays s'est figé ce matin à 8h30, l'heure à laquelle la première bombe a explosé à l'église catholique de Saint-Antoine de Colombo, dimanche, en pleine célébration de Pâques.
C'est comme si nous étions tous morts, qu'on m'avait pris une part de moi-même. Ici, c'est une famille entière avec les enfants qui est morte. On n'oubliera jamais cette douleur.
La vague d'attentats, 8 explosions dans des églises et des hôtels de luxe, a fait plus de 320 morts et 500 blessés. Ces attaques, attribuées à un groupe islamiste local et revendiquées par l'État islamique, visaient en priorité la minorité chrétienne. Quelques heures après le drame, le pape François concluait son message Urbi et Orbi à la ville et au monde.
Je souhaite exprimer ma proximité et mon affection à la communauté chrétienne, frappée en pleine prière, et à toutes les victimes de cette violence si cruelle.
Cette violence endeuille régulièrement les fêtes religieuses chrétiennes à travers le monde. 45 morts en Égypte à Pâques il y a 2 ans, 14 morts au Pakistan juste avant Noël. Selon plusieurs ONG, les persécutions envers les chrétiens augmentent. Sur cette carte, les nuances de rouge représentent les pays les plus sectaires. Corée du Nord, Afghanistan, Somalie, les plus meurtriers comme le Nigeria, et de grandes puissances de plus en plus répressives comme la Chine et l'Inde. Entre les attaques d'églises, les assassinats et les humiliations quotidiennes, les chrétiens sont-ils devenus les croyants les plus persécutés? Le christianisme doit-il se résigner à s'effacer là où il est en minorité? Que peut faire la diplomatie vaticane pour protéger les fidèles?
Qui paraît extrêmement brutal, mais qui est souvent revenu sur notre site, les chrétiens n'oublient-ils pas un peu vite qu'ils ont aussi été oppresseurs d'autres minorités? Alors bon, c'est un fait historique, hein. L'Inquisition, les croisades, les pogroms, on va pas tout refaire. Est-ce que les terroristes qui attaquent les chrétiens aujourd'hui ont ça en tête? Est-ce que c'est présent dans leur rhétorique? Est-ce qu'ils chercheraient à se venger du passé, Samuel Lieven?
Alors c'est vrai que c'est la perception qu'on a en Occident d'une religion qui a été la religion dominante, voire la matrice de l'Occident. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui qu'au début du 21e siècle, le christianisme puisse être une religion persécutée. Or, c'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde, dans plusieurs dizaines de pays où les chrétiens sont plutôt en minorité. Effectivement, il y a des degrés divers de persécution ou de maltraitance. Et de temps en temps, ça fait la une de l'actualité quand une bombe explose, quand il y a un attentat. Mais ça peut aussi être au quotidien des discriminations, des traitements plus durs imposés aux minorités chrétiennes. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose que l'Occident redécouvre comme ça par à-coup. On a eu le cas effectivement en Irak en 2014 avec Daesh qui a chassé les populations chrétiennes de la plaine de Ninive. On a de temps en temps des attentats en Égypte. Et puis on a aussi des attentats très spectaculaires comme on a eu évidemment au Sri Lanka ou au Pakistan. Alors c'est à chaque fois pour des raisons différentes. Le degré de persécution n'est pas toujours le même, mais c'est toujours ça contredit notre perception.
Précisément, Samuel Lieven, ces persécutions infligées aux chrétiens dans le monde, eh bien elles s'incarnent dans un chiffre, oui. Anne, et c'est votre chiffre du jour.
Un chiffre qui nous a interpellés, voire interloqués, c'est selon vos pointages, selon les pointages de votre association, 245 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, persécution? Ça va de quoi à quoi, si je puis vous poser la question comme ça, Claire Lacroix?
Un chrétien sur 9, précisément.
Oui, un chrétien sur 9. C'est un chiffre qui est en augmentation. La persécution, elle peut commencer dès la naissance. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien, il y a des femmes qui ne vont pas être bien soignées à l'hôpital. Elles ne vont pas pouvoir accoucher dans des bonnes conditions parce qu'elles sont chrétiennes. Elles n'ont pas, par exemple au Pakistan, des femmes qui, parce qu'elles sont chrétiennes, ne sont pas soignées par les médecins, par exemple. Autrement, ça peut être aussi à tous les niveaux. Ça peut être au niveau du mariage, ne pas pouvoir trouver de conjoint, ne pas pouvoir trouver de travail parce que vous êtes chrétien. Et puis ça peut aller aussi jusqu'au moment où vous mourrez, par exemple en Égypte, régulièrement, on interdit à des chrétiens de pouvoir avoir un endroit pour trouver une sépulture.
Le pays qui revient comme le plus noir sur la persécution des chrétiens, c'est la Corée du Nord. C'est historique. Enfin, comment ça se passe là-bas? C'est quoi la persécution des chrétiens?
Depuis 2002, ce pays est à la première place de l'index mondial de persécution des chrétiens que on sort tous les ans. Alors là-bas, si, c'est simple. Hein, si on découvre que vous croyez en Dieu, vous pouvez être envoyé dans un camp de travaux forcés, non seulement vous, mais aussi toute votre famille, sur 4 générations. Donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une guerre hein, contre les chrétiens qui est là-bas. Et c'est même un miracle qu'il y ait encore des chrétiens aujourd'hui.
L'athéisme est considéré comme religion d'État.
Exactement. Il faut quelque part adorer le leader en place.
Et alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui aussi un autre danger qui est apparu maintenant depuis quelques années? C'est la radicalisation islamiste. Amélie Chély, est-ce qu'aujourd'hui c'est en train de devenir un des principaux dangers, cette radicalisation islamiste pour les chrétiens dans le monde?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, si on se concentre sur la radicalisation telle qu'on l'observe en Occident, c'est encore sur le juif et le croisé qu'on mise. Mm-hmm. C'est-à-dire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec le nouveau phénomène Daesh, l'ennemi numéro un, c'était pour des raisons géostratégiques, c'était le chiite. C'était un problème irakien au départ. Sauf que pour ratisser large et pour recruter de façon plus internationale, eh bien, il a fallu élargir le discours et aller taper chez des gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un chiite. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu le recrutement de jeunes Français, Belges ou Européens plus généralement, on ne va pas lui dire de venir lutter contre le chiite. On va venir raviver cette détestation qu'il peut avoir pour des raisons de désespérance socio-économique à l'égard des majoritaires, c'est-à-dire les chrétiens, pour lui donner envie de rejoindre.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, la revendication des attentats du Sri Lanka par Daesh, elle vous semble crédible ?
Oui, alors elle est crédible pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une hiérarchie, certes, mais ça ne veut pas dire que le chrétien n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas parce que vous en avez un qui est plus grand que le chrétien ne demeure pas l'ennemi. C'est effectivement le cas. Au départ, c'est chiite. Ensuite, ce sont les mauvais musulmans, puisque c'est un mouvement takfiri, le mouvement de Daesh, c'est-à-dire qui excommunie du giron de l'islam ceux qui n'ont pas leur lecture. Et ensuite, bien évidemment, y a les croisés, les juifs et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Ensuite, apparemment, ce serait pour venir punir de la tuerie de Christchurch. Oui.
Ça, c'est un ministre sri lankais qui a évoqué cette hypothèse-là.
Pourquoi pas ? Dans les réseaux de fratrie et de copinage de ces milieux djihadisants, ce n'est pas ce qui est revenu le plus. Mmh. Ce qui est revenu le plus, c'est d'aller attaquer pendant les fêtes les chrétiens, mais pour venger de la perte territoriale de Daesh.
Est-ce que il y a bien sûr les menaces d'attentats, mais est-ce que dans ces pays où ils sont minoritaires, et notamment dans les pays de la religion de l'État et l'islam, ils sont condamnés à s'effacer, en tout cas de la vie publique, on va dire, les chrétiens ?
Alors c'est vrai dans le Proche-Orient. Il faut savoir que le Proche-Orient, historiquement, c'est le berceau du christianisme. Hein. C'est là que les premières communautés sont nées, ont essaimé. Et là, sur tout le XXe siècle, on voit vraiment que le Proche-Orient s'est vidé de ses chrétiens. Un exemple, la Turquie, 25% de chrétiens au début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est 0,1, grosso modo.
Un exil massif.
Voilà, déjà. Exil massif. Même chose dans les territoires palestiniens. On était à peu près à 25% de chrétiens. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2%, essentiellement massés du côté de Bethléem.
Voilà. En Irak, d'un million.
En Irak, 000, voilà, on était à peu près à 200 000. Voilà, c'était divisé par deux sur les 10 dernières années. Donc, à part la grosse communauté copte d'Égypte, donc là, on est sur à peu près 10% de la population.
Qui a été visée par un attentat il y a...
Qui est régulièrement visée par des attentats. Et surtout, au jour le jour, ça fait moins de bruit, mais ce sont des discriminations. La difficulté, effectivement, à trouver un travail, de faire carrière dans l'armée, la haute administration. C'est des schémas qu'on retrouve assez souvent au Proche-Orient. À part cette communauté-là, il y a un risque de disparition prochaine des communautés chrétiennes de souche au Proche-Orient. En revanche, on a aussi, malgré tout, des communautés qui apparaissent. Par exemple, en Arabie Saoudite, on sait mal qu'il y a entre 1 et 2 millions de chrétiens catholiques, latins, romains, parce qu'ils viennent pour des raisons économiques. Donc ils viennent du sous-continent indien, ils viennent de d'autres pays du Proche-Orient pour y travailler.
Ce sont des
chrétiens importés, en quelque sorte.
Alors, il y a une loi au Pakistan qui s'appelle la loi sur le blasphème. Mm-hmm. Et ça, c'est un vrai problème. C'est une épée de Damoclès sur la tête de chaque chrétien. Il doit faire très attention à tout ce qu'ils disent, à tout ce qu'ils publient. Le moindre post Facebook peut être mal interprété. Et dès que quelqu'un est accusé de blasphème, c'est la rue qui choisit. Il peut y avoir en quelques heures une foule immense qui arrive et qui détruit tout un quartier. C'est arrivé déjà plusieurs fois. Par exemple, à Joseph Colony, des gens qui sont obligés de s'enfuir parce que sinon, ils vont se faire tuer. Et effectivement, dans le cas d'Asia Bibi, accusation de blasphème. Et à cause de la pression de la rue, le gouvernement ne sait plus quoi faire, en fait.
Amélie Chély, est-ce que les islamismes sunnites et chiites, ils ont la même attitude à l'endroit de la communauté chrétienne ?
Pas du tout. Effectivement, on en parlait justement avant l'émission. Et le seul finalement chrétien qui peut être en danger dans les communautés massivement chiites, c'est celui qui a quitté l'islam pour justement devenir chrétien. Mais en dehors de ça, si vous voulez, il y a une sorte de réémergence de ce qu'on appelle la martyropathie, c'est-à-dire de la figure du martyr dans le djihadisme. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont les Iraniens qui ont inventé le suicide bomber. Et avec justement cette réémergence du djihadisme avec Daesh, en fait, il s'est créé deux grandes figures. Le sunnite qui veut lutter contre tout ce qui n'est pas lui, et le chiite qui, au contraire, en fait, intègre dans ses rangs des personnes issues d'autres religions. Vous avez par exemple la brigade Babylone, qui est une brigade chrétienne qui, au nom de Jésus, tombe pour la République islamique d'Iran. Vous avez des combattants juifs. C'est-à-dire qu'on est dans une volonté de préserver tous les gens du livre, c'est-à-dire les abrahamismes.
Alors évidemment, la situation de la communauté chrétienne dans certains pays du monde où ils sont persécutés, eh bien, elle préoccupe le pape François, Hélène.
Oui, nous sommes des frères tout en étant différents, ce n'est pas moi qui le dis, c'est donc le pape François, en février dernier, avant de se rendre pour un voyage historique aux Émirats Arabes Unis, puis au Maroc. Quelle est la situation pour les chrétiens dans ces pays? Eh bien, dans les Émirats, d'abord, si l'islam est la religion officielle, avec la charia comme base de législation, l'article 25 de la Constitution exclut toute discrimination fondée sur la religion. Les chrétiens, qui représentent à peu près 12% de la population, peuvent donc pratiquer leur culte en toute liberté. Enfin, ça, c'est sur le papier. Disons qu'ils peuvent pratiquer, mais pas trop fort. Rien de distinctif ou d'ostentatoire. Les églises n'ont pas le droit d'avoir de clocher ou de croix. Autre contrainte, si un homme chrétien peut épouser une musulmane, l'inverse n'est pas vrai ou alors très compliqué. La femme perdant la garde de ses enfants ainsi que sa nationalité, vous en parliez, Claire Liévin. Malgré tout, le pape François a pu célébrer une messe XXL en plein air à Abu Dhabi devant plus de 130 000 personnes. Signe tangible, diront certains, de l'évolution du monde musulman. Quant au Maroc, eh bien là encore, entre l'affichage et la réalité, il y a comme un fossé. La Constitution de 2011 garantit la liberté de culte, soit. C'est vrai pour les chrétiens de nationalité étrangère, européens ou d'Afrique subsaharienne, mais pas du tout pour les Marocains. Dans un pays où l'islam est la religion d'État, eh bien le roi ne reconnaît que les musulmans ou les juifs comme citoyens, comme sujets, et donc être marocain et chrétien, c'est plus que compliqué. La communauté, d'ailleurs, vit cachée dans ce pays réputé progressiste. Les Marocains convertis au christianisme sont perçus comme des traîtres, par question pour eux de se réunir publiquement. Pas de mariage, pas de funérailles selon le rite chrétien, pas d'église de chrétiens marocains non plus. Et comme dans les Émirats, tout chrétien qui s'exprime en public, qui exprime sa croyance en public, est susceptible d'être poursuivi, voire exclu du pays. Samuel Liévin, est-ce qu'en se rendant dans ces pays-là, le pape demande des changements pour la situation de ces chrétiens, ou bien est-ce que ça reste des visites symboliques ?
Bon, c'est plus que symbolique. Il n'est pas le premier à rendre visite à ces pays. Par exemple, Jean-Paul II a fait une visite à Casablanca en 84, voilà, qui avait vraiment marqué les esprits. Non, c'est tout en haut de l'agenda papal. L'islam, le dialogue avec l'islam, c'est tout en haut de l'agenda papal pour le 21e siècle. Il a d'ailleurs dit il y a quelques jours, ou alors il y a un dialogue qui se fait, ou alors tout simplement on finira pas le siècle. C'est ça l'approche de François, elle est assez abrupte. Et donc il fait tout pour encourager ce dialogue, cette rencontre. Il se fait pas d'illusions au plan théologique. Les fondamentaux sont beaucoup trop différents pour que les musulmans et les chrétiens se mettent d'accord sur l'essentiel, à savoir les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ, fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, etc., etc. En revanche, il y a la volonté de faire vivre des populations ensemble, parce que le grand risque, il a été pointé ici, c'est de faire de toutes ces populations du bassin méditerranéen, côté en tout cas Proche-Orient et Afrique du Nord, une sorte de monolithe contrôlé par un islam sunnite qui ne tolère rien d'autre que sa propre fréquence de l'islam, et on irait vers des sociétés tyranniques.
Et Amélie Chély, en France, est-ce qu'il y a en France une menace islamiste qui vise aussi les catholiques? On se souvient évidemment, on a tous en mémoire l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray à l'été 2016 et l'assassinat du père Hamel. Est-ce que cette menace, elle est réelle et pérenne?
Cette menace, elle est réelle. Alors, il y a plus un antisémitisme domestique dans les populations qui sont susceptibles de tomber dans ces discours de recrutement, même si, bon, bien évidemment, les recrutements sont beaucoup moins massifs qu'il y a quelques temps, qu'il y a quelques mois, ne serait-ce que pour reprendre le fait que c'est donc la presse Daesh qui a diffusé l'information ici. On sait que depuis le mois de novembre, elle est très, très peu active. Il y a bien évidemment l'idée du croisé qui est toujours au cœur des débats, surtout depuis que, selon ces populations